は。
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est Fréquence Paris Pluriel, bien sûr, dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, avec aujourd'hui l'émission donc d'AC, donc c'est l'émission historique. Nous tenions à quand même à dédier cette émission donc à tous les Syriens qui passent la frontière et qui meurent dans les mers et autres mardeaux. Enfin, c'est pas des mardeaux, c'est des rivières ou lacs, ou enfin bref. Principalement un petit garçon de 3 ans qui s'est retrouvé, qui est décédé évidemment. Donc nous espérons que les États membres de l'UE vont faire le nécessaire pour accueillir tous ces gens qui passent à la frontière, qui soient qui sont pourchassés dans leur propre pays, malmenés, maltraités, les femmes violées, etc., etc. Donc que les États membres de l'UE ainsi que tous les autres États puissent faire le nécessaire pour les accueillir. En tout cas, chaleureusement, dans un premier temps, et ensuite leur trouver travail et emploi, enfin emploi et puis logement. Donc cette émission leur est dédiée. C'était donc un souhait de de Christophe. Hein, Christophe, voilà. Donc
j'aime,
voilà.
J'aime pas les petits enfants de 3 ans, 200 qui meurent sur des plages.
C'est clair. Donc voilà. Donc cette émission est particulière ce soir puisque vous avez pu constater, grâce à la presse nationale et internationale, qu'en Grèce, le gouvernement est tombé. Le Premier ministre a démissionné pour lancer éventuellement des élections démocratiques, on va dire. Syriza également, le mouvement qui avait mis cet homme au pouvoir, est en train d'exploser. La Grèce également est un peu pris entre un étau entre la demande de remboursement de la dette et puis tout ce qui se passe en Grèce, c'est-à-dire les.
C'est un gap, on peut le dire.
Oui, c'est ça. C'est.
Il y a des fondements, c'est-à-dire qu'il y a. Comme repousser l'âge légal de la retraite parce qu'il y avait un taux très bas, il y a une armée qui est surdimensionnée par rapport aux besoins du pays. Enfin, il y avait des réformes structurelles à faire, ne serait-ce que pour des économies de bon sens qui n'ont rien à voir avec la dette grecque. Mais on pourra en reparler parce que derrière, il y a tout un historique. On a invité quelqu'un, je crois.
Oui, effectivement, normalement, on va nous appeler un historien spécialisé dans la Grèce. Oui, allô ? Ah bon, d'accord. Excuse-moi. Ensuite, nous parlerons également avec un autre monsieur, si jamais il nous appelle, nous espérons qu'il nous appellera, qui est lui-même directement concerné, puisqu'il appartient à Syriza en Grèce, donc il est membre de ce parti, on va dire. Et on va avoir son commentaire, son avis sur la question. Mais nous parlerons principalement également de, comme c'est une mission sur chômage et la précarité, bien sûr, nous parlerons principalement donc de cette ineptie qui est le contrôle des chômeurs, donc qui devrait débuter fin septembre, des offres d'emploi qui sont de moins en moins importantes parce que en fait ils sont bouffés par tout ce qui est internet et les réseaux sociaux.
On parlera de ça si on a le temps.
Si on a le temps, bien sûr. C'est des sujets qui sont également dans l'émission. Oui, et allô ? Il est là ? Tu peux me le passer ? C'est bon ? Allô, vous m'entendez ?
Oui.
Oui, bonjour. Bonjour Jacques. On va se tutoyer parce qu'on est des militants aussi de notre côté. Tu es historien, membre du collectif Montpelliérien en solidarité avec le peuple grec et diffuseur d'un programme de 9 films documentaires qui s'intitule Voyage au cinéma grec partant de crise. C'est exact, hein ?
Oui, c'est ça, mais c'est plutôt 7 films.
C'est plutôt 7 films, d'accord.
7 films de court-métrage qui ne sont pas des documentaires, qui sont des fictions de réalisateurs grecs.
D'accord, très bien. Alors, nous en parlerons à la fin de l'interview pour nous dire un petit peu où ça se passe et quand et éventuellement si combien ça coûte et puis etc. Mais dans un premier temps, si tu me le permets, j'aurais aimé avoir ton œil d'historien un petit peu sur la question grecque en fait, parce que l'histoire grecque a quand même montré que c'était pas mal. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont dans le scie un petit peu, des dictatures, après des fausses démocraties, à nouveau. La Grèce a été un peu gouvernée par les Allemands. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, donc, c'est un grand mouvement populaire qu'on a appelé Syriza, qui a mené donc un premier ministre un peu de gauche, on va dire, au gouvernement, qui vient de démissionner. Syriza explose en même temps. Quelle est ton opinion sur la question qui nous brûle un peu les lèvres aujourd'hui ?
Que la situation de la Grèce est une situation très complexe. Parce que Il ne faut pas oublier que la Grèce est voisine de la Turquie,
oui.
Où actuellement il y a un très grave conflit avec les Kurdes, voisine de la Syrie, dont je ne fais pas de commentaires, tout le monde parle maintenant des migrants, mm-hmm. qui d'ailleurs arrivent massivement en Grèce, et en particulier dans les îles. Voisine aussi très proche de la Palestine et d'Israël, et d'autre part par certaines de ces îles, très proche de la Libye. Alors si vous voyez donc ce contexte, vous comprenez que les Grecs ont un peu peur d'être seuls, ce qui explique pourquoi ils comptent, peut-être à tort, mais ils comptent sur la solidarité européenne dans un contexte assez complexe. Mmh. Je précise que c'est pas ma position. Ma position personnelle est position de assez méfiante vis-à-vis des institutions européennes qui ont eu une action extrêmement dure vis-à-vis de la Grèce. Mais d'un autre côté, je suis pas certain non plus que la majorité des Grecs soit favorable à une rupture avec les institutions européennes.
D'accord. Ça veut dire par là qu'en fait, Syriza qui est arrivé au pouvoir avec cette idée de ne pas rester dans l'euro, donc il a été obligé, puisqu'il était un petit peu mis au pied du mur, de rester. Il était obligé un peu de rester quand même dans l'euro, de rembourser sa dette sur un certain nombre d'années. Et donc, est-ce que c'est Syriza qui l'a poussé un petit peu à démissionner? C'est la branca populaire il était obligé de démissionner pour.
Non, pas du tout. D'accord. Je crois pas du tout pour ce que je connais, hein, je ne suis pas spécialiste du monde grec. Mm-hmm. Moi, j'y vais régulièrement, je connais bien, j'ai beaucoup d'amis grecs. Non, je ne crois pas du tout que ce soit est poussé Alexis Tsipras à la démission. Mm-hmm. Je pense que Tsipras a démissionné parce qu'il s'est retrouvé devant l'opposition d'une partie importante de Syriza à accepter le dernier mémorandum. Mm-hmm. Il y a donc une grande partie de militants de Syriza, qui s'appelle maintenant Unité Populaire, qui sont sur la position, quand on dit non, c'est non. Il y avait d'ailleurs, dès le 12-13 juillet à Athènes, des affiches avec ce thème-là. Quand on dit non, c'est non. Mm-hmm. Bon, tout le monde est au courant des 61,7% de non au référendum.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, oui.
La position de Tsipras a été, pour une partie des gens, mal comprise. Mais la question qui est posée, à mon avis, n'est pas une question qui est posée aux Grecs. La question qui est posée, c'est une question qui est posée à la gauche européenne. C'est-à-dire que est-ce que les institutions européennes peuvent imposer à un peuple qui donne son opinion une politique que ce peuple ne veut pas.
Oui, monsieur.
Là, on est dans une situation où l'Europe crée un espace néocolonial. Et malheureusement, c'est un espace néocolonial qui s'abat sur la Grèce.
Bonsoir, Christophe.
C'est à mon avis, c'est ça qu'il faudrait discuter, parce que je vois beaucoup de gens qui discutent de ça. À mon retour en France, j'ai vu beaucoup de gens discuter du problème des divisions des Grecs, je le comprends très bien, il y a vraiment des problèmes très sérieux en Grèce. Mais à mon avis, en France, notre problème, c'est comment secouer les politiques d'austérité, puisqu'elles peuvent passer par l'opinion de 61% d'un peuple, consulté démocratiquement.
Très bien. Jacques, j'ai mon copain, enfin, j'ai Christophe qui veut te poser une question.
Moi, ce qui m'intéresse politiquement, c'est le rôle de lobby ou pas qu'il y a eu de la part des branques grecques. Ça m'intéressait parce qu'on n'en a absolument pas parlé, parce que d'un seul coup, Angela Merkel, notamment, pour contenter son aide libérale et puis tous les pensionnés liés aux revenus
du capital,
a tout fait pour imposer ce plan d'austérité à la Grèce, sachant que historiquement, quand même, la Grèce, on a financé sa propre dette. C'est-à-dire que la dette de la Grèce, on n'en parlait pas au moment des GO. Hein, ça arrangeait tout le monde. Moi, j'aurais voulu avoir un petit peu le rôle des banques par rapport à ça. Comment elles se sont positionnées? Parce qu'elles ont eu quand même des ordres très précis de, ben, maintenant, vous fermez tous les guichets, tout ça.
Ah, pour fermer les guichets? Ah
Mais le rôle politique des banques, parce que je pense qu'il y a eu un double, voire un triple
langage. Oui, mais la fermeture des guichets, je pense que c'est très clair, la fermeture des guichets de juillet, c'est la dernière dont vous parlez.
Oui, oui.
C'est que, c'est une mesure européenne, puisque l'Union européenne a refusé d'augmenter les capacités de réserve des banques grecques, qui se sont retrouvées à sec, devant les retraits, parce qu'on avait un peu affolé les gens, etc., sur ce qui allait se passer. Et donc, les banques grecques ont été se sont trouvées incapables de fournir de nouveau des euros. Mais ça, c'est quand même essentiellement une mesure des mécanismes européens. Parce que les mécanismes européens, d'ailleurs, dans cette affaire, sont... peu clair hein, pour l'opinion publique, parce qu'il y a des mécanismes de l'euro, mais il y a aussi des mécanismes proprement de l'eurogroupe, des mécanismes financiers européens, et tous ces mécanismes ont joué dans le cas de la Grèce dans le même sens. C'est-à-dire utiliser l'assèchement des liquidités comme moyen de pression politique. Et c'était en particulier juste avant le référendum. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est à faire voter oui, les Grecs. J'étais en Grèce à ce moment-là, et beaucoup de journaux européens disaient que le résultat serait serré, voire que Tsipras échouerait et que le oui qu'il emporterait. Ce qui a étonné, je pense, toute l'Europe, c'est le non massif du peuple grec. Dans ces conditions, dans les conditions où, tous les jours, les gens allaient faire la queue pour prendre 60 euros aux distributeurs des banques qui, elles, étaient fermées.
Voilà. J'ai une autre question.
Dans toute la Grèce, il y a des centaines de Grecs qui, paisiblement d'ailleurs, il n'y a pas eu de panique, etc., sont allés chercher tous les jours 60 euros. Et le dimanche, ils ont voté non.
J'ai une autre question par rapport à ça. Dans le cadre du mémorandum qui a été imposé à la Grèce, Alexis Tsipras a notamment accepté un certain nombre de réformes structurelles. Notamment, il y a une partie de la gauche libérale ou sociodémocrate, enfin les socialos quoi, qu'on fait. Oui, mais il y a quand même des réformes structurelles à faire. À savoir que vous avez un âge de départ légal de la retraite qui est trop bas, vous avez une armée qui est surdimensionnée, il y a tous ces paradis fiscaux et ces avantages qui sont donnés aux armateurs grecs. On vous a quand même financé pas mal de choses qui n'ont jamais été utilisées. Par rapport à l'opinion grecque, est-ce que c'est aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est compréhensible ou il y a un dialogue de sourds entre les injonctions européennes et l'homme de la rue?
Non, je crois ce que j'en ai perçu, parce que je suis pas en Grèce en permanence, mais ce que j'en ai perçu, c'est que la majorité des Grecs comprennent que ce sont des exigences financières européennes qu'on leur impose. Par exemple, je prends un exemple très précis. C'est l'exemple du budget de la défense qui est surdimensionné. Tout le monde est d'accord pour dire que le budget de la défense est surdimensionné, que ce serait bien que la Grèce...
Excuse-moi. Par exemple, quand tu dis surdimensionné, c'est combien par rapport à l'éducation en Grèce?
Ça, je l'ai pas en tête.
Ah, tu l'as pas en tête, d'accord.
Je l'ai pas en tête, j'ai pas amené un arsenal argumentaire avec moi, mais il est sûr que la Grèce est un des pays du monde qui dépense le plus pour sa défense par habitant.
D'accord.
Voilà. C'est une des plus grosses dépenses de défense. Mais ce que ne disent pas les médias européens, c'est quels sont les bénéficiaires de ces achats de matériel Pour la défense nationale.
Bah, ce sont eux, ce sont les marchands de canons.
Pour
c'est...
les avions, ouais. Pour les, tout le matériel sophistiqué dont dispose l'armée grecque. Alors, ouais. À votre avis, c'est qui les bénéficiaires?
Ce sont les États membres de l'UE, quoi.
C'est premièrement la France.
Oui, bien sûr.
Troisième.
Ensuite.
L'Allemagne.
L'Allemagne.
Absolument.
Et en dernier lieu, ou presque, ils écoutent les États-Unis.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, trois grands États. Qui sont des États, entre guillemets, créanciers de la Grèce, sont aussi des grands États fournisseurs de tout le matériel militaire. Parce que, par exemple, ce serait quand même assez facile que l'Union européenne proclame qu'en cas d'agression contre la Grèce, elle interviendrait contre les agresseurs.
Mmh. Tu veux dire par là que... Oui.
Elle ne l'a pas fait parce que il y a une clause de doute du fait qu'elle veut bien défendre les gens, mais à condition qu'ils ne soient pas des gens, à condition que l'agresseur éventuel ne soit pas dans l'OTAN. Le grand problème de la Grèce, c'est qu'elle a un voisin qui s'appelle la Turquie et qui est membre de l'OTAN. Et tout ça est très gênant du point de vue des problèmes. Politico-militaire.
Oui.
Parce que que ferait l'Union européenne en cas d'attaque de la Turquie?
C'est voilà, clair.
Question qui est posée. Et donc, si vous voulez, c'est les nationalistes grecs disent ah non, il faut garder nos armes, il faut garder nos avions, ça nous défend. Naturellement, c'est on comprend vu de France que c'est un peu compliqué. Mais vu de là-bas, en ce moment. Combien de médias parlent des bombardements qu'il y a dans la partie kurde de la Turquie?
Mais bien sûr. Vous pensez sincèrement qu'il y a un risque de conflit entre la Grèce et la Turquie?
Attendez, c'est pas que je pense sincèrement, c'est que non, il n'y a pas de risque de conflit actuellement, mais c'est qu'il y a une menace, enfin un désaccord permanent. Par exemple, on ne sait pas, il y a toujours pas d'accord. Sur l'utilisation des éventuels gisements en Méditerranée, parce que les Grecs et les Turcs ne sont pas d'accord, toujours, à ma connaissance, hein, sur leur zone respective en Méditerranée.
Ça
fait quand même combien de 40 ans que le conflit chypriote existe.
Oui, tout à fait.
Non, je veux pas dire par là qu'il y a un risque de guerre, hein, qu'on se mette d'accord.
Oui.
Je dis que, comme il n'y a pas de garantie absolue de paix avec la Turquie, ceci justifie, entre guillemets, ceci explique pourquoi les Grecs ont un budget militaire complètement dément.
On a dit que c'était la volonté du parti nationaliste qui était allié à Syriza de maintenir
pas seulement le parti nationaliste, il y a un large consensus en Grèce, parce que ça fait partie de l'histoire grecque quand même, hein, la méfiance très très longue vis-à-vis du voisin turc. Alors c'est des questions qui ne sont pas traitées par l'Union européenne. Et pour cause, hein, parce que beaucoup de grands pays de l'Union européenne ont une attitude pas très claire vis-à-vis de la direction turque actuelle.
J'ai une question à vous poser. Parmi les plans économiques de redressement de la Grèce alternatif, quel est celui est-ce que dans l'opinion publique grecque, il y avait vraiment un plan qui permettait de remettre les finances à flot et qui a jamais été entendu?
À ma connaissance, un plan de ce type, je le connais pas bien. Moi, je n'ai pas trop entendu parler. Par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de Grecs pensent qu'il faut rétablir une certaine autonomie pour l'agriculture, qu'il faut tenter de reprendre des bases industrielles et de services. Mais depuis maintenant cinq ans, l'économie grecque est complètement étranglée par la question de la dette.
Oui, c'est.
Alors, je vais poser la question de Christophe autrement. Est-ce que la sortie de l'euro était envisageable pour Syriza?
Ah oui, à la question de la sortie de l'euro. Je vous donne mon opinion personnelle. La sortie de l'euro au dernier moment, en juin-juillet, était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des problèmes internationaux. Mmh. Parce que l'euro, qu'on le veuille ou non, s'est assimilé, à tort ou à raison, à l'Europe. Et les partisans de la sortie de l'euro sont considérés, qu'ils le veuillent ou non, comme des gens qui veulent s'éloigner un peu de l'Union européenne. Si vous voulez, on n'a pas convaincu l'opinion grecque, ni européenne d'ailleurs, que sortir de l'euro, c'est rester dans l'Union. Voilà, je ne sais pas quelle est votre position à vous, mais la question se pose. Est-ce que en sortant de l'euro, que doit-on mettre fin à l'Union européenne? C'est ça la question.
Alors justement, c'était aussi la question. Est-ce que pour vous, le sens du référendum de Syriza, parce que finalement, Alexis Tsipras l'a interprété. Enfin, on a cru comprendre qu'il l'avait interprété comme la volonté des Grecs de rester dans l'euro et dans l'Europe. Est-ce que c'était vraiment le sens de ce référendum-là, ou, enfin, selon vous, bien sûr.
Non, je vois que le sens, je pense que la question a été clairement posée et la réponse a été aussi claire. La question était, acceptons-nous les positions de l'Union européenne? C'était pas sur l'euro. C'est que les Grecs ont répondu non aux conditions qu'on leur posait. Bon, ils avaient l'espoir qu'on puisse discuter de conditions, d'autres conditions. L'Union européenne a refusé toute discussion. Voilà, c'est clair. Moi, je pense que la question est claire. Et la question, je pense que, comme on dit en football, la balle est maintenant dans le camp de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle veut faire qu'est-ce qu'elle veut faire avec la Grèce? Parce qu'il est bien clair que les conditions qu'on a imposées à la Grèce ne pourront pas être remplis. Donc, qu'est-ce que l'Union européenne veut faire avec la Grèce? Veut-elle en faire une espèce de colonie qu'elle dirige par banque interposée? Ou veut-elle commencer à discuter avec les Grecs de ce qui est possible? En fait, l'Union européenne a refusé toute discussion sur tout ce qui niait la position ultra-austéritaire qui a dirigé la Grèce depuis 4 ou 5 ans. L'Union européenne a refusé qu'on mette en cause cela. Et à mon avis, moi je suis du point de vue de Varoufakis, s'ils l'ont fait pour l'Europe, ce n'est pas pour la Grèce. C'est pour donner un exemple à tous les Européens. Si vous voulez faire ça, ce sera très dur pour tout ce qui veut. Et la preuve, c'est que ce chantage semble avoir marqué des points en Espagne.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un chantage vis-à-vis de tous les Européens. Et c'est compris, je pense, par une grande partie de l'opinion européenne, quand même.
Excusez-moi de t'interrompre, on va bientôt arrêter l'entretien parce qu'en fait on attend un autre coup de fil de quelqu'un
qui est
un haut dignitaire de Syriza.
Je vais dire un petit mot sur le programme de film.
Voilà, c'est ça que je vais poser comme question, je t'écoute.
Voilà, écoute, je voulais dire un petit mot juste pour dire que ce programme de film, nous n'avons pas attendu les médias et la Grèce pour en parler, la crise grecque. Nous avons présenté ce programme déjà au Festival méditerranéen de Montpellier de 2014, c'est-à-dire avant l'élection de Syriza, en octobre-novembre 2014. Et nous allons le sortir dans toutes les villes de France et à Paris le 28 novembre. C'est un programme de 6 ou 7, ça dépendra des salles, courts-métrages de réalisateurs et de productions grecques qui ont comme point commun de traiter en fiction, c'est pas des documentaires, en fiction, des problèmes contemporains de la Grèce, c'est-à-dire la crise et les manières dont les Grecs essayent de survivre de ça, parce que c'est quand même extrêmement dur. Je sais pas si vous...
Si, on est tout à fait conscient, bien sûr.
On est au courant, mais c'est très dur ce qu'on a imposé à la Grèce.
Absolument. Voilà. Et t'as un site où on peut joindre quelqu'un, on sait où ça va se passer, ou pas encore?
Oui, alors, à Paris, c'est clair, ça se passera au cinéma Le Saint-André des Arts. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs déjà passé ce programme en avant-première au moment de la semaine de solidarité du mois de juin.
Oui.
et elle va le reprendre. Donc on va le reprendre au cinéma Saint-André des Arts, mais on va parler dans beaucoup dans d'autres endroits. Notre petite organisme qui soutient ça s'appelle la société Les Films des Deux Rives. Films au pluriel des Deux Rives.
Oui.
Vous comprenez bien de quoi il s'agit, des deux rives de la Méditerranée.
Oui, évidemment. Oui.
Et ouais, à Montpellier. Et donc là, vous pouvez nous trouver n'importe comment sur Google.
Oui, j'imagine.
Simplement, les deux, il faut l'écrire 2-8. Il n'y a pas de chiffre.
D'accord.
Pluriel des deux rives. Voilà. Et vous me trouvez facilement.
Eh bien, Jacques, je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Tu reviens ici quand tu veux.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup à toi.
Et à bientôt, en solidarité avec les Grecs.
Oui. Pas de problème. Merci bien, Jacques.
Merci
au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
On va s'écouter une petite chanson et on reprendra la parole par la suite. Merci beaucoup. Très bien, donc c'était nous les femmes de, bien sûr, la compagnie Joli Môme, une compagnie que nous aimons ici dans cette émission, même dans cette radio, dans toute la station, bien sûr.
C'est une compagnie de théâtre emblématique.
Absolument. Je dédie cette chanson donc à toutes les femmes qui se sont martyrisées à travers le monde, d'autant qu'il y en a deux indiennes qui ont été jetées à la Vox Populi donc dans la rue pour être violées par un groupe d'hommes, parce qu'en fait, elles ont payé pour leurs frères, enfin toute une histoire incroyable. Voilà, donc les femmes à travers le monde sont encore bien humiliées, bien maltraitées par rapport aux hommes. L'égalité n'existe pas vraiment entre les hommes et les femmes. Donc je dis cette chanson et l'émission, parce que qui a été ton petit coup plasmat tout à l'heure sur la Syrie, et l'ensemble des gens qui traversent la frontière de plusieurs pays, voilà. Moi, je dédie donc cette émission également aux femmes qui sont martyrisées, et à l'ensemble, quel que soit leur âge, leur religion, etc. Voilà, donc on reprend cette émission, donc c'est l'émission Mode d'emploi, on va reprendre cette émission, c'était Mode d'emploi sur Fréquence par Pluriel 106.3 FM, une émission sur le chômage et la précarité avec l'ensemble du groupe, donc c'est Christophe, bonjour Christophe à nouveau.
Rebonjour.
Ludo, exceptionnellement à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir Ludo. Et Gilles, bien sûr, voilà, comme d'habitude. Donc c'est toute notre émission maintenant est mensuelle, une fois par mois, à la place de... Avant, c'était hebdomadaire. Donc maintenant, c'est toutes les premières... tout premier vendredi de chaque mois. Voilà, l'émission historique. Donc on va reprendre cette émission avec, évidemment, quelque chose qui nous concerne tous. C'est le contrôle des chômeurs, qui va commencer donc apparemment sur l'ensemble du territoire en fin septembre, a priori. Qu'en est-il exactement, Christophe ?
Alors, avant de parler du contrôle des chômeurs, on va parler de différents articles, un dossier spécial. Tout d'abord, le fait que Pôle emploi ne pourrait pas vraiment échapper à l'ubérisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La plateforme Uber, vous savez, c'est la fameuse plateforme électronique et site qui propose à disposition aux usagers des taxis et qui donc a coupé le coût de participation dans le domaine des taxis en offrant une concurrence acharnée. Eh bien, figure-toi, Gene, que malgré son monopole théorique, la révolution 2.0, la révolution du net, a fait que Pôle emploi a de sacrés concurrents en ce qui concerne le domaine des offres. Alors, par rapport à ça, effectivement, il y a un monopole officiel, il y a les réseaux de Pôle emploi, mais à ton avis, quel est le deuxième acteur de l'emploi en France, pour toi ?
L'associatif,
deuxième secteur qui, le deuxième site ou la deuxième plateforme qui propose des offres d'emploi. Sur Internet.
J'ai pas compris la question, excuse-moi.
Site Internet.
D'accord. Je donne ma langue au chat, dis-moi tout.
Eh bien, figure-toi qu'il s'agit du boncoin.fr, parce qu'en fait, ce qui se passe, je t'explique les choses, c'est que ce qui devait arriver arrive. Pôle emploi s'est fait ubériser. Autrement dit, comme les taxis, les hôteliers ou les loueurs de voitures, il doit faire face à une concurrence de plateformes qui mettent en relation des clients et des vendeurs, en l'occurrence des particuliers qui se proposent de prêter leur maison ou leur voiture à des degrés différents. Tous les secteurs sont confrontés à cette concurrence nouvelle et Pôle emploi n'échappe pas à cette crise identitaire. À savoir qu'il y a, pour le recrutement en ligne, devine combien de sites spécialisés il y a dans le domaine du recrutement. Donne un chiffre.
Une bonne centaine.
500.
Oh la vache, d'accord.
Et oui, il y a plusieurs, et dans cette immense galaxie, il y a plusieurs, parmi les 500 sites actifs, si tu veux, il y a en gros 5 familles. Alors là, je vais te décrire parce que c'est intéressant, parce que ça met en avant, si tu veux, les différentes formes d'évolution de la société. Donc la première famille, c'est ce qu'on appelle les job boards. C'est-à-dire, c'est Monster, Cadre Emploi, les acteurs historiques du marché. Il y a Région de Job pour l'emploi local, fort de leurs 15 ans d'expérience. Tu vois, ces gens-là, ces plateformes ont une grosse CV tech. Bah, ils proposent, en plus de leurs services, pour aider les DRH, il y a une plateforme de recherche sémantique avec un site spécialisé et tout. À ton avis, le deuxième acteur pour rechercher des offres, c'est quoi? Parmi tous ces sites.
Là, je n'y connais absolument rien. Vas-y, dis-moi.
Eh bien, figure-toi que le deuxième acteur qui offre des possibilités d'emploi, c'est les réseaux sociaux.
Ah oui, j'y avais pensé, toi. Oui, effectivement.
C'est d'accord. LinkedIn, c'est vidéo, Facebook qui permettent d'échanger et de mieux connaître des candidats potentiels. Et ça se fait de plus en plus.
D'accord.
C'est-à-dire que moi-même, aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu une personne que je ne connais pas qui m'a proposé de balancer mon CV sur LinkedIn pour me faire connaître.
D'accord.
Pourtant, je suis fonctionnaire, mais voilà.
LinkedIn aussi, non?
C'est ça.
Ouais.
Absolument.
Et ça, c'est les réseaux sociaux, ça, LinkedIn.
Ça, c'est les réseaux sociaux, d'accord, professionnels. Et pourtant, c'est des chasseurs de tête qui me contactent. Tu fais parce que j'ai telle compétence identifiée. Mais ça arrive à tout le monde, quel que soit le degré de qualification. Hein. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les matchers. C'est-à-dire, c'est des sites comme Météo Job ou Kappa qui rapprochent les compétences des uns et les attentes des autres grâce à des hashtags pour un recrutement sur mesure. Alors, en fait, t'es un employeur, tu vas pas recruter forcément quelqu'un qui est super qualifié. Tu vas dire, j'ai besoin de telle compétence, ça. Trouvez-moi la thème. C'est un peu comme le supermarché, mais c'est dédié à un profil, pas forcément à des qualifications. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez une expérience de boucher ou ceci ou cela et tout. Même si t'as pas le CAP boucherie, par exemple, c'est pour faire un intérim. Je te donne un exemple bidon. Un intérim dans une boucherie pendant 2 jours, et ben ça suffit.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et puis, et dans ces trucs-là, enfin, il y a les gratuits comme le boncoin.fr, bac+5.com, Pôle emploi, l'APEC, enfin, les opérateurs traditionnels. Il faut savoir que le Boncoin, c'est un des acteurs low-cost du recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, ça domine le segment des petits jobs étudiants ou des jobs peu qualifiés. Donc,
job d'été, quoi, genre de trucs comme
ça. Non, pas forcément. Les jobs peu qualifiés. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui est du domaine du service à la personne, des choses comme ça.
D'accord.
Donc, ça va de la babysitting en passant par les ménages, tout ça. On a ensuite des sites spécialisés comme les agrégateurs et les métamoteurs qui vont te faire des reboots de tout ça en faisant tout ça. Bon. Sauf que le problème, si tu veux, c'est que parmi tous ces sites, on a aussi des trucs pour spécialiser pour les besoins ponctuels. Donc on va retrouver ça dans tout ce qui est effectivement comme le Boncoin, les jobs qualifiés comme enfin le ménage, mais il y a aucun mépris dans ce que je dis, comme enfin défini comme peu qualifié, comme femme de ménage, jardinier, babysitter. Par contre, les fonctions qui demandent effectivement un niveau d'expertise important vont être là, l'apanage des chasseurs de tête. C'est-à-dire que, en fait, tu as une différenciation. C'est-à-dire que sur Pôle emploi, on va définir un profil, un projet, et d'un autre côté, tu as des sites, c'est moi, votre projet, votre profil, vos qualifications, je m'en fous.
Je m'en fous.
Moi, c'est mon besoin.
D'accord.
Et tu vas avoir un autre truc qui est, c'est ok, j'ai tel besoin, votre profil et tout, mais j'ai un niveau d'exigence top niveau. Et ça va être réservé qu'à certains réseaux qu'on appelle les chasseurs de tête, parce que les chasseurs de tête, ça coûte cher. Ce qui se passe, c'est que Pôle emploi assure pas apparemment trop de missions, puisque Pôle emploi aussi maintenant fait la prise en charge de l'indemnisation du chômage. C'est-à-dire que commencer par donc cette indemnisation, c'était au départ quand même sa vocation première, c'était quand même d'accompagner les chômeurs. Entre janvier 2009 et date de sa création et janvier 2015, le nombre de demandeurs d'emploi figurant sur ces listes, toutes catégories confondues quand même, tu sais combien est passé de combien? Toutes catégories confondues, donc y compris les gens qui sont en formation, qui sont à temps partiel, tout ça. À ton avis, on est passé de combien entre 2009 et 2015?
Je sais absolument pas, je peux pas dire.
C'est très symptomatique parce qu'on est passé de 3,9 millions de personnes à 6 millions. Sans compter que les conseillers doivent aussi s'occuper des handicapés, entre guillemets, numériques. Mmh. Donc, si tu veux, ce dossier est intéressant parce que, il met vraiment en exergue, même si c'est un mot un peu savant, le problème de la fracture numérique. Parce que alors ça, pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, c'est une réalité. Et c'est une réalité intergénérationnelle. C'est-à-dire que le fait, si tu veux avoir, entre guillemets, être senior et avoir plus de 50 ans, c'est pas simplement un handicap lié à l'âge, c'est-à-dire qu'il y a une réalité intergénérationnelle dans l'utilisation de ces modes de communication et de recherche. Ça, c'est une réalité. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Tous ces outils numériques, ils deviennent incontournables pour trouver un job et ils contribuent à faire disparaître le marché caché, c'est-à-dire les jobs réservés à quelques personnes et tout, et à intensifier les mises en relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'y peut absolument pas rien contre l'ampleur du chômage dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une inadéquation entre le niveau de qualification, aussi bien de façon ascendante, c'est très très élevé que descendante, pas du tout qualification, et les besoins en fait du marché. Et donc on en arrive au problème de qui fait quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un marché qui rétrécit et puis d'un côté il y a des super qualifiés et des autres pas du tout, à ton avis, qu'est-ce qui se passe?
C'est une déréglementation.
C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a le problème de l'adéquation, de l'inadéquation entre les postes à pourvoir et les formations des demandeurs. Car une ancienne caissière, pour peu qu'elle soit aimable et pugnace, peut aussi apprendre le métier de télévendeuse. Sauf que là, on est devant un vrai problème culturel. Mm-hmm. Et puis surtout, c'est quoi pour les emplois qualifiés? C'est le copinage, quoi. C'est la mise en réseau.
Très bien.
Fils de machin, recommandé par, etc. Et ça, c'est une réalité.
Les offres de Pôle emploi restent sérieuses encore ou...
Oui. Mais là, si tu veux, on est devant une véritable évolution où l'emploi qualifié et de technicité, quel que soit le domaine, ne va pas simplement être lié à la qualification ou l'expérience, lié à l'âge, mais aussi à la mise en relation. D'accord. Et à la réactivité numérique. Alors ça a un beau terme, peut-être de novlangue, mais qui dit réactivité numérique dit fracture numérique. On en parlait au début des années 2000 de la fracture numérique. Mm-hmm. C'est une réalité aujourd'hui.
Ça veut dire que tous les chômeurs qui n'ont ni ordinateur et qui savent pas se servir d'Internet, ils ont aucune chance de trouver du travail, quoi.
Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un réel handicap et un réel besoin et une demande.
D'accord. Okay. Merci beaucoup, Christophe. On s'écoute une petite chanson, Ludo, s'il te plaît, et ensuite on prend la parole. Merci.
Good morning, Diane. It's being called the mother of all white.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, une station qui arrache, on va dire, dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires avec le groupe historique de cette émission, donc AC, Agence contre le chômage. Je suis avec Christophe et puis Ludo.
Bonsoir, Ludo
à la technique. Et Gilles, bien sûr, au micro. On va reprendre cette émission pour parler, évidemment, du CDI qui a été une invention de Manuel Valls pour le changer un petit peu, pour le rendre un petit peu plus précaire, on va dire. Qu'en penses-tu, Ludo?
Oui, bien, écoutez, j'espère que tout le monde a écouté la brillante intervention de Monsieur Valls à La Rochelle, c'est l'université du UPS. Et donc, ses propos sont tout à fait clair et édifiant, j'ai envie de dire, puisque voilà ce qu'il dit pour réformer le code du travail, c'est parce que les salariés ne connaissent plus leurs droits, paraît-il. Le code du travail est devenu trop compliqué, donc il faudrait le simplifier pour qu'il se protège un peu mieux. Mais, dit-il aussi, il faudrait laisser plus de latitude aux employeurs et aux salariés. Dit-il.
Ah, c'est intéressant.
Alors, pour décider eux-mêmes. Alors évidemment, je ne crois pas savoir, à ma connaissance, en fait, que le salarié et l'employeur soient dans un rapport égalitaire. Je crois plutôt que le salarié a plutôt tendance à subir la volonté de l'employeur. Donc si on laisse un peu plus de marge de manœuvre, on peut imaginer à qui ça va profiter réellement. Et il dit, on peut lever des contraintes tout en protégeant. Je vous passe le baratin sur c'est la gauche, c'est la social-démocratie, c'est ça, voilà, a proclamé le Premier ministre. Nous devons donner plus de latitude aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants pour décider eux-mêmes de leur politique de formation, d'organisation du travail, d'insertion des jeunes par les négociations au plus près de leurs besoins. Ce qui veut dire, en fait, que de plus en plus, notre Premier ministre, je termine. Notre Premier ministre souhaiterait faire passer en quelque sorte effectivement la négociation collective avant la loi presque, hein, c'est-à-dire détricoter. Alors, il parle de complexité du Code du travail. On est d'accord. Mais en comparaison de la complexité des conventions collectives, c'est-à-dire par branche, des fois, qui est le plus complexe des deux ? Alors ça veut dire qu'en fait, on risque de se retrouver avec une multiplicité, si vous voulez, de coups de canif au Code du travail via les conventions collectives, et c'est ce qu'il propose, c'est-à-dire finalement à la soi-disant négociation sociale, où il y a quand même un rapport de force, où l'employeur, on est bien placé pour le savoir, nous, en tant que chômeurs à l'UNEDIC, où il y a un rapport de force, où le patron a peu imposé sa volonté, et donc, où, en définitive, eh bien, il y aura beaucoup d'exemptions au code du travail et à la règle. Alors, typiquement, l'exemple typique, c'est les 35 heures, par exemple, puisque, par certains accords de branche, on peut revenir dessus. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un bon morceau de politicien, hein, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'en fait, on réforme dans leur intérêt, alors qu'en réalité, on s'apprête à renier leurs droits. Et je voudrais juste rappeler une dernière statistique pour montrer quand même le type de débat qu'on a, c'est que aujourd'hui, c'était en février, hein, c'était en février 2015, il y avait une statistique qui avait fait bondir tout le monde, c'est que 90% des embauches étaient sur des contrats de moins d'un mois. Donc c'est énorme, et ça montre surtout qu'on a un super système de CDD qui permet ce genre de choses. Et donc effectivement, le CDI n'est pas en cause. Par contre, ce qui est en cause, semble-t-il, c'est bien le type d'emploi qu'on propose sur le marché du travail, et avant de s'attaquer à la réglementation du droit du travail, peut-être qu'il faudrait s'attaquer tout simplement au travail lui-même et à l'économie elle-même.
Juste un petit commentaire. Moi, je pensais que M. Valls, en fait, en parlant de négociations partenariales, souhaitait appliquer le programme de la CGT sur l'emploi. Moi, je suis pour, hein.
Moi aussi.
Genre l'extension du CDI.
Je propose à M. Macron de nous faire une loi Macron 2 avec 800 articles sur le droit du travail, contradictoire, et puis qu'un.
Mais uniquement pour les énarques, puis ils se retrouvent en tous en CDD d'un mois. Ça
voilà,
me plairait.
C'est un peu ça l'idée, oui. Alors maintenant, il va passer au charbon un petit peu, parce que voilà, le salariat, c'est travailler, donc
Oui, mais c'est contrôlé.
Contrôlé.
Derrière contrôle.
Alors, les chômeurs sont des voleurs, on le sait tous, hein, donc il faut les contrôler. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi, Christophe?
Alors, écoutez, après nos 6 millions de chômeurs précaires ou personnes à temps partiel, derrière grosse contrôle, le retour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il arrive? Non, parce qu'on se croirait en Allemagne et puis une politique libérale. Mais nous sommes dans un état libéral. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc, derrière grosse contrôle. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on entend? Donc, j'explique. Après l'expérimentation donc de 4 départements, le gouvernement, encore lui, a décidé d'étendre les contrôles généralisés à tout l'Hexagone. Fin septembre, 200 agents supplémentaires vont être investis afin de contrôler près de 180 000 demandeurs d'emploi. Une mise en place saluée, devinez qui, par qui ?
Je ne sais pas.
Parce que là, on est dans un gouvernement de gauche. Tu sais qui c'est
qui
a fait ?
Non, on n'est pas dans un gouvernement de gauche.
Attends,
c'est une erreur.
Finalement, on est dans un gouvernement socialiste. Tu sais qui c'est qui a souligné cette avancée
historique, hein ?
Ouais. Raymond Chauby, le conseiller social de Sarkozy. Ancien président donc du conseil d'orientation de Pôle emploi, je crois que le contrôle des chômeurs est tout à fait justifié. Si l'immense majorité des chômeurs est vraiment à la recherche d'un emploi, il y a sans doute une petite minorité qui n'est pas forcément active, a-t-il déclaré, alors que les demandeurs d'emploi sont tenus de rechercher activement un emploi sous peine de sanction. J'adore ces énarques qui profitent des fromages de la République en faisant la morale. Ils peuvent avoir des sanctions qui vont d'un simple avertissement à la suspension de leurs droits, à la radiation en cas de récidive, a-t-il listé. Donc la question qui se pose, à ton avis, c'est comment fonctionne le contrôle généralisé des chômeurs, à ton avis.
On met un policier derrière chaque chômeur, non? Non, pardon.
Alors, non, on va faire dans la nouvelle langue. Il s'agit avant tout d'un processus de redynamisation à la corona, bien évidemment, et non de radiation.
Très bien, Monsieur Chirac, pas de souci.
S'il pourrait avoir davantage de résultats.
J'ai l'impression que cette émission tourne mal, là. Je sais pas pourquoi, mais.
Non, mais, écoutez, j'ai demandé, en fait, je me suis cassé du château de Bitti. Vous ne le savez pas. Berdanette n'est pas au courant et je viens sur Fréquence Paris Pluriel. Car nous sommes donc à la recherche d'emploi et de chômeurs. Il n'y a que 2% de radiation. Est-ce qu'une corona a 2 degrés d'alcool, là? Hein?
Excuse-moi, hein, c'est 2% radié pour non recherche d'emploi.
Non recherche d'emploi, c'est ça. Mais
ça ne répond pas au degré d'alcool de la Corona. Monsieur maire. Ah, vous êtes dedans. Alors, je parlais bien sûr de l'ancien ministre. Qu'est-ce que vous croyez? Ah bien. Alors, simple avertissement. En fait, il y aurait que 13 500 radiations sur un total de 3,5 millions de chômeurs. Non, mais dites-donc, ça en fait à tâter des culs des vaches. Non, mais c'est rien. Bon. Plus sérieusement, les conseillers, donc les agents de contrôle, avec ces 200 agents supplémentaires, Pôle emploi compte bien développer des contrôles aléatoires. Formidable, non? C'est comme le loto. Ou prendre des catégories dans les métiers en tension. Alors ça encore, si tu veux, c'est un point à débat. Parce que qui dit métier en tension dit quand même travail au noir, dit cotisation sociale pour financer la protection sociale, nos droits en moins. Je préfère récupérer un peu de fric dans les poches du patronat. C'est pas dans l'intérêt général.
C'est pas très clair, ouais.
Voilà. Ça pourrait être encore faire des choses. Bon, chacun, toujours est-il qu'on a souvent, par conseiller emploi, Madame Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie, elle avait dit qu'il y avait combien de, dans le portefeuille d'un conseiller Pôle emploi,
elle avait dit 20 ou 30, je sais pas.
70, 30, oui.
70, elle avait dit, oui.
Il y en a plus de 100, donc on souhaite bien courage au conseiller Pôle emploi. Ce sont les mêmes agents qui aident les chômeurs, donc t'imagines l'injonction paradoxale. Bonjour, c'est pour un contrôle, mais on vous aime. Tu sais, tu mets ça avec un képi, ça passe pas. Je sais pas pourquoi, mais ça passe pas.
Ne parlons pas de képi ici, je vais m'énerver.
Oui, c'est ce que je me disais. Donc depuis 2013, plus sérieusement, Pôle emploi expérimente de nouveaux contrôles en Haute-Normandie, Poitou-Charentes, PACA et Franche-Comté. Fin septembre, donc cette expérimentation va s'étendre à tout l'Hexagone. Mm-hmm. C'est-à-dire que... Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est l'aspect démocratique de la chose. Hein, parce qu'il n'y a pas eu de débat. On a décidé d'étendre à tout. Hein, ni de résultats. Il n'y a qu'un bilan régional a été présenté en interne en octobre 2014. C'est-à-dire qu'on n'a même pas communiqué sur l'intérêt, les effets bénéfiques ou négatifs d'une telle mesure. On a décidé de l'appliquer à tout le monde. Pour petite info, sur les 2600 chômeurs contrôlés à Toulon et Manosque, on avait calculé que 20% des 2600 chômeurs contrôlés ne cherchaient pas activement un emploi selon les échos. Mais ça n'a pas été vérifié. Sauf qu'avec l'afflux de demandeurs d'emploi, Pôle emploi a donc décidé de mobiliser ses 200 agents supplémentaires. Un chiffre à mettre en perspective avec les quelques 22 000 conseillers chargés donc du suivi des chômeurs et de leur accompagnement. La radiation étant le recours ultime, on peut se demander ce que ça va être, à savoir un questionnaire puis un entretien par téléphone ou enfin une rencontre en direct. 1000 radiations en tout cas sont recensées chaque mois. La fin des SMS pour radiation ne serait pas d'actualité. Mmh. On peut se demander, voilà. C'est une grosse question.
Très bien. Je remercie Christophe.
J'avais juste un commentaire à propos des SMS. On sait qu'elle n'est pas d'actualité, mais enfin, on sait quand même que suivant qu'on reçoit plus ou moins de SMS, les chiffres du chômage baissent ou augmentent. Oui. Donc, je m'explique s'il n'y a pas de SMS, les gens en fait ne s'actualisent pas et le chiffre baisse. Si par contre il y a trop de relances de SMS, les gens tout d'un coup se font valoir qu'ils sont toujours au chômage et donc semble-t-il, et donc se réinscrivent et donc les chiffres du chômage augmentent. Et donc la question, enfin ce que je me disais, c'est que finalement ces histoires de contrôle, finalement ça risque peut-être de provoquer éventuellement des augmentations de chômage. Alors après, il faut voir si c'est des chômeurs indemnisés ou pas, mais qui sont contrôlés. A priori, ceux qui touchent pas d'indemnité, ils sont pas susceptibles d'être contrôlés, mais sait-on jamais. Et donc finalement, on peut se demander si cette mesure, plutôt que de remettre des gens au travail, ne va pas en réalité faire augmenter les chiffres du chômage, puisque tout d'un coup, il y aura plein de nouveaux chômeurs actifs et en démarche d'emploi qui...
Merci Ludo, merci à tous les deux, merci à moi-même d'ailleurs, je plaisante. Donc cette émission se termine. Donc deux petites annonces avant de fermer l'antenne, enfin pour notre émission en tout cas. Donc je rappelle le 28 novembre, cinéma Saint-André-des-Arts. Donc vous tapez film des deux rives en tout en lettres pour obtenir donc la diffusion du programme des films des films sur voyage au cinéma grec par temps de crise. Et également donc le 24 et 25 octobre 2015, donc forum des chômeurs et des précaires, à l'initiative d'AC, Agence contre le chômage, et également MNCP, la PES, coordination des intermittents et précaires, réseau salariat Actu Chômage, CNDF, Fondation Copernic. Ça se trouve le samedi 24 octobre dans cette salle Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e, métro Sentier. Ça commence à 13h30. Il faut absolument y aller parce que d'abord c'est très intéressant d'écouter ce qu'il va s'y dire parce qu'il y aura des sociologues, des gens qui connaissent bien la question. Surtout, mais surtout s'informer et puis participer, soutenir également les chômeurs et précaires. Ça va de soi. Donc je tiens à vous remercier messieurs d'avoir fait cette émission avec moi. Merci messieurs dames de l'avoir écouté. J'ai fait un gros bisou aux filles et une grosse poignée de main aux garçons.
Bonsoir.
Salut.
Duval sera pour rien, mon vieux. La belle que tu serres dans tes yeux, ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Pas d'amour, pas de guitariste. Ta solitude est...